Vous écoutez, on lit pour vous.
L'inclusion, le travail de tous et toutes, une chronique de Denis Daniel Boulay, parue le 31 août dans le magazine Fugue. C'est enfoncer une porte ouverte que d'affirmer que la semaine de la fierté a été une grande réussite, et l'on peut sans forfanterie en remercier toute l'équipe de Fierté Montréal. Les quelques averses n'auront pas réussi à mettre une ombre sur ce grand moment d'être ensemble et de partager, rendant effectif pendant quelques jours ce sentiment d'inclusion. Chacun, chacune devait y avoir sa place. En somme, être soi en allant vers l'autre avec la conviction que les différences peuvent aussi rassembler. Pour moi, qui vais bientôt totaliser bien plus qu'une trentaine de marches de la fierté, sans oublier les premières manifestations en France, c'est toujours un étonnement, voire un émerveillement, ce grand rassemblement sous le signe de la fête et du partage. Bien loin, si je remonte dans mes souvenirs, des quelques centaines de militants, au masculin puisqu'il n'y avait que des hommes, surveillé par une police goguenarde et prête à en découdre et regardé sur les trottoirs par une population indignée dans les rues de Paris. Un de mes slogans préférés à l'époque était « Hétéro, t'es foutu, les homos sont dans la rue ». Malgré cela, force est de constater aujourd'hui que la société patriarcale hétéro-colonialiste a encore de beaux jours devant elle, même si les gains sont importants pour nos communautés. Même si nous pouvons être un peu plus nous-mêmes, si nous pouvons le dire, le clamer, le fêter comme le 14 août dernier. J'ai bien sûr profité de la semaine de la fierté, profité des journées communautaires, profité de cette grande bouffée d'air frais pour rappeler au reste du monde que nous sommes là pour de bon, que nous ne serons plus jamais invisibles et silencieux. Ne croyez pas cependant que ce plaisir ressenti m'ait pour autant fait oublier tout sens critique. Et si j'avais été gagnée par un endormissement militant, d'autres, pendant cette semaine de célébration, se sont chargés de me rappeler que tout n'était ni rose ni arc-en-ciel. Au-delà de la grande communion réunie sous un sigle qui n'en finit pas de s'allonger, il y a encore beaucoup de grains de sable, parfois des plages entières de sable, qui enrayent l'engrenage de ce mieux-être de nos communautés. Entre autres, la notion d'inclusion. Ce beau concept de communication devenu un leitmotiv un peu lassant à la longue et dont on souhaiterait qu'il soit mieux défini. Car chacun, chacune en tire sa propre définition et surtout se demande si il, elle ou y elle est vraiment inclus, incluse ou, au contraire, n'y a pas sa place. Le terme a une valeur universaliste puisque tout le monde devrait être inclus et personne ne devrait se retrouver sur le bord du chemin. Mais la réalité est autre et certaines y voient surtout la dissolution et l'effacement des différences, au profit toujours d'un groupe dominant qui imposerait les normes à atteindre et à respecter de cette inclusion souhaitée et revendiquée. En somme, comme c'est le cas depuis des décennies, que ce sont les hommes gays et blancs qui continuent de donner le « là » de cette inclusion à leur rythme selon les humeurs du moment, d'autant que ce sont ceux qui aujourd'hui sont, toute proportion gardée, les mieux acceptés dans nos sociétés. Bien sûr, ils sont irréprochables sur le plan du discours. Ils connaissent sur le bout des doigts le discours de l'inclusion et même donnent la parole à celles et ceux qui sont en dehors de leur catégorie. Mais ce sont encore trop souvent ceux qui donnent le tempo encore aujourd'hui. Lors de la journée communautaire, le kiosque de Fugue devient un peu le réceptacle de toutes les frustrations des membres de nos communautés. Certaines récriminations sont farfelues et témoignent souvent d'une grande ignorance de nos communautés et de leur histoire. D'autres témoignages, au contraire, demandent peut-être que l'on s'y arrête. Où sont les lesbiennes et le discours féministe? Me demandait une lesbienne qui regrettait que celle-ci soit reléguée au second plan derrière les revendications trans. Peut-être pas tout à fait faux. Mais j'aurais envie d'ajouter que les questions de la représentativité lesbienne et de leur expression au sein de nos communautés se posent depuis les tout débuts des mouvements LGBTQ dès les années 70 et qu'elles continuent de faire débat. André Patry, dans une lettre ouverte sur les médias sociaux, déplorait que la minute de silence en hommage aux victimes du sida, et qui est un moment fort du défilé, inclut aujourd'hui toutes les victimes d'homophobie et de transphobie, etc. Je suis d'accord avec lui. Je pense qu'il faudrait garder l'origine historique de ce moment de recueillement, qui devrait rappeler pour les plus jeunes générations le drame du sida. Mais en même temps, je souhaiterais aussi qu'un hommage soit rendu à toutes les victimes, ici comme ailleurs, de l'intolérance, de l'obscurantisme et du fanatisme. Comment concilier les deux sans qu'un hommage disparaisse ou soit relégué au second plan par l'autre? Je n'ai pas la réponse. On pourrait multiplier les exemples de ce genre qui pointent les difficultés à vendre, sans autre forme de question, le concept d'inclusion. On pourrait parler de la voix des communautés racisées, de celle des personnes trans hors du discours officiel des grands organismes reconnus, ou encore de la misère sociale, voire de l'itinérance aussi des personnes qui, par choix ou par défaut, appartiennent aussi à nos communautés. Bien sûr, le terme d'inclusion fait rêver. Mais un des dangers perçus par certains, certaines, c'est qu'il dilue dans un même tourbillon des problématiques bien spécifiques qui demanderaient à ce qu'elles soient prises en compte, mises en relief, qu'elles ne tombent pas dans les craques du plancher au profit d'autres plus au goût du jour. Beaucoup d'organismes, avec les contraintes dans lesquelles ils doivent survivre, continue aujourd'hui d'œuvrer pour que ce terme d'inclusion soit plus qu'un simple concept de marketing et devienne effectif. Et pour celles et ceux qui, avec justesse parfois, soulignent les limites et les contradictions de nos communautés, se plaignent qu'elles ne sont pas si inclusives que cela, je n'aurai qu'un seul conseil, c'est de se retrousser les manches. En se commettant, ils et elles percevraient que les choses sont souvent un peu plus complexes qu'elles n'y paraissent. Que voulez-vous? On cherche toujours à avoir le beurre, l'argent du beurre et les fesses du crémier ou de la crémière ou du duz-crémise, assez inclusif comme écriture, mais en évitant d'avoir à bouger ses propres fesses. C'était l'inclusion, le travail de tous et toutes, une chronique de Denis Daniel Boulay parue le 31 août dans le magazine Fugue.
À quoi ressemble la vie pendant la nuit polaire? Un texte de Kieran Mulvaney, paru le 15 novembre 2025 dans National Geographic. Ceux qui vivent près des régions polaires glacées de la Terre font l'expérience d'une nuit quasi constante chaque hiver. Dans la quatrième saison de la série américaine d'HBO True Detective, deux enquêtrices tente de résoudre le mystère de mort mystérieuse dans la ville fictive d'Ennis, en Alaska, à une période où la nuit froide ne semble pas se terminer. On appelle ce phénomène la nuit polaire, mais à quoi correspond-il vraiment? Quand se produit-il et pourquoi? Comment les personnes et la faune qui le vivent le supportent-elles? Quand a lieu la nuit polaire? En termes simples, la nuit polaire, désigne une période pendant laquelle le soleil ne dépasse pas la ligne de l'horizon pendant plus de 24 heures. Elle se produit en hiver au nord du cercle polaire arctique et au sud du cercle polaire antarctique, deux lignes circumpolaires situées à 66,6 degrés de latitude nord et sud, respectivement. Plus on se rapproche des pôles, plus elle dure longtemps. Au pôle nord, par exemple, le soleil se couche à la mi-septembre, quelques jours après l'équinoxe d'automne, et ne se lève qu'à la mi-mars, ce qui crée au pôle une nuit polaire de 179 jours. À des endroits plus éloignés des pôles, elle peut durer environ 24 heures lors du solstice d'hiver. La ville d'Utqiagvik, en Alaska, le village le plus septentrional des États-Unis, qui a probablement servi d'inspiration à la fictive ville d'Ennis dans True Detective, connaît environ 65 jours de nuit polaire chaque année, de la mi-novembre à la mi-janvier ou à la fin janvier. Malgré son nom, la nuit polaire n'est pas un bloc continu de nuit pure. La lumière du soleil reste réfractée à l'horizon, même quand le soleil s'est couché. Ainsi, à de nombreuses latitudes, la plupart des jours peuvent être dominés par différentes phases de crépuscule polaire. Comme partout ailleurs sur Terre, il fait généralement plus clair en milieu de journée car le soleil monte vers l'horizon et s'en éloigne sans jamais le dépasser. Ce qu'on appelle le crépuscule civil peut offrir suffisamment de lumière pour permettre aux gens de poursuivre leurs activités en plein air, tandis que le crépuscule astronomique est si sombre que les seules lumières naturelles sont les étoiles, la lune et les aurores boréales qui dansent et scintillent dans un ciel dégagé. Cette sémantique ne change pas le fait que pour les habitants de l'Arctique ou les personnes qui résident dans les stations de recherche de l'Antarctique, la nuit polaire peut être une véritable épreuve. Comment est la vie sous la nuit polaire? L'absence de repères familiers et de cycles diurnes nocturnes peut affecter les rythmes circadiens et perturber le sommeil. En outre, le manque perpétuel de lumière du jour sape souvent l'énergie. Cependant, vivre la longue nuit polaire n'est pas perturbant pour tout le monde et de nombreux habitants apprécient l'expérience. Comme l'explique à la radio américaine NPR, un habitant du Svalbard, un archipel norvégien situé dans la région de la mer de Barents, « Il faut voir la beauté dans l'obscurité, ce qui n'est pas du tout difficile pour moi. Je me sens encore plus proche de la nature lorsque je marche dans l'obscurité. » Les habitants de l'Arctique font ce qu'ils peuvent pour lutter contre la déprime que peut provoquer la longue nuit, que ce soit en utilisant des lampes de luminothérapie qui reproduisent les longueurs d'onde de la lumière du soleil, en maintenant simplement une routine, en restant physiquement actif et en participant à autant d'activités sociales que possible, bien que ces deux dernières options soient limitées par le froid glacial qui accompagne le long crépuscule. À Utqiagvik, par exemple, les températures sont de moins 27 centigrades en moyenne en janvier, tandis que la municipalité norvégienne de Kautokeino a récemment vu le mercure descendre en dessous de moins 40 degrés centigrades lors de la nuit la plus froide depuis 25 ans. Les humains ne sont pas les seuls à devoir s'adapter au froid et à l'obscurité. Sur Terre, les lemmings et les campagnols s'enfouissent profondément dans le manteau neigeux pour se nourrir des graines de l'année précédente, tandis que les spermophiles arctiques choisissent d'hiberner et que les ours polaires peuvent même se terrer au pire de l'hiver pour se mettre à l'abri. De nombreux animaux adaptent leur rythme quotidien en se nourrissant et en dormant tout au long de la journée sur de toutes petites périodes pour économiser de l'énergie. Les yeux des rennes brillent en bleu en hiver en raison d'une adaptation qui leur permet de trouver plus facilement le lichen dont ils se nourrissent pendant les mois d'obscurité. Dans la mer, le zooplancton poursuit sa migration quotidienne des eaux profondes vers la surface en suivant la lumière de la lune. Un phénomène qui change avec le climat. Même les régions polaires sombres et froides subissent les effets du changement climatique qui, ironiquement, a apporté à la fois davantage et moins de lumière à la nuit polaire. La glace de mer amincie par le réchauffement des températures libère le passage pour davantage de navires et la pollution lumineuse qui en résulte affecte probablement le comportement des organismes marins à plus de 180 mètres sous la surface. Dans certaines régions de l'Arctique, comme le Svalbard, le réchauffement des températures a entraîné une réduction de la couverture neigeuse et une limitation des pluies hivernales, ce qui rend la saison la plus noire encore plus sombre et plus difficile à vivre. C'était « À quoi ressemble la vie pendant la nuit polaire ?» un texte de Kieran Mulvaney paru le 15 novembre 2025 dans National Geographic.
Quand la pâte de l'entrepreneuriat Beauceron lève. Un texte de Marc Tison paru le 28 septembre 2025 dans La Presse. La boulangerie Vachon et fils a été fondée en 1923 à Sainte-Marie, en Beauce. Mais elle aurait pu s'appeler Giroux et Marie. C'est la femme de Joseph Arcade Vachon, Rosanna Giroux, qui sera le véritable levain de l'entreprise et un bel exemple de l'esprit d'initiative Beauceron. Au Québec, le Joe Louis de Vachon est plus connu que le célèbre boxeur des années 1930 qui a inspiré son nom. Mais les demi-lunes et autres roulés suisses auraient pu s'inscrire dans les mémoires sous le nom de Petit Gâteau Giroux. L'aventure commence en 1923, dans une Beauce qui voit poindre sa tradition entrepreneurial. Joseph Arcade Vachon et sa femme, Rosanna Giroux, mariés depuis 1897, tiennent alors à Saint-Patrice-de-Beau-Rivage, située à 45 km du fleuve, une ferme de 82 hectares, trop petite pour qui gravite la constellation de leurs 11 enfants. Quand elle apprend que la propriétaire de la boulangerie Leblon, à Sainte-Marie, cherche un acheteur après la mort soudaine de son mari, Rosanna convainc Joseph Arcade qu'une nouvelle tranche de vie s'étale devant eux. Peut-être pourra-t-elle ainsi ramener dans le giron familial ses fils éparpillés aux États-Unis en quête de travail. La main à la pâte. La veuve Leblon demande 5 000 $ pour la boulangerie et la maison attenante. Hormis l'actif de la ferme, le couple Vachon n'a que 15 $ en banque. Ils conviennent d'une annuité de 500 $ au taux d'intérêt de 2,5. Mais il y a loin des vaches aux miches. Le couple de cultivateurs n'y connaît rien en boulangerie. Ici intervient leur rédempteur. C'est le prénom de leur fils aîné qu'ils envoient mettre la main à la pâte pendant les semaines qui précèdent le transfert du commerce, concrétisé en octobre 1923. Rose Arcade est âgée de 57 ans et Rosanna a 46 ans. La vraie patronne. Joseph Arcade Vachon est officiellement le propriétaire de la boulangerie J.A. Vachon. Mais il est clair pour tout le monde que le véritable patron de l'entreprise est Rosanna, constate Dave Corriveau dans son livre « L'histoire des petits gâteaux Vachon ». Car Rosanna Giroux a de la poigne et de l'initiative. Contrairement à son mari, elle sait écrire et compter. Rédempteur Boulange, les lundis, mercredis et vendredis, à raison d'une production hebdomadaire de 600 pains, vendus 6 sous pièce. Pendant que Joseph Arcade fait la livraison dans sa voiture attelée, Rosanna tient la comptabilité, répond aux fournisseurs et engagera bientôt les premiers employés. Dans le poêle à bois de la maison familiale, elle mitonne des brioches, des tartes et des beignets que la petite Simone, à peine âgée de 12 ans, distribue dans le village après l'école. Les fils Vachon renouent les liens. Leurs fils Louis et Amédée reviennent des États-Unis au milieu des années 1920 pour contribuer à la distribution et à la production. Inspirés par un vendeur de biscuits et pâtisseries itinérants, Louis convainc ses parents d'investir la rondelette somme de 15 $ pour lancer la production de petits gâteaux. Joseph, qui a travaillé dans l'industrie automobile à Détroit, rentre à Sainte-Marie en 1932. La même année, les deux Benjamin, Benoît et Paul, rejoignent à leur tour l'entreprise à la fin de leurs études. Paul, qui s'est découvert un talent pour la pâtisserie, met alors au point la recette d'un petit gâteau rond au chocolat, fourré de crème et nappé d'une glace chocolatée. Le petit galet brun obtient rapidement un franc succès, mais ce n'est qu'en 1939 qu'on le nomme Joe et Louis. La marque réunit en théorie les prénoms des frères Joseph et Louis, mais la popularité de Joe Louis, fameux poids lourd américain, a sans doute pesé davantage dans la balance. Une nouvelle usine. Les années qui précèdent la crise économique de 1929 sont propices à l'entrepreneuriat Beauceron. À elle seule, Sainte-Marie accueille deux manufactures de chaussures. Créée en 1927, la Regina Shoe emploiera jusqu'à 500 personnes avant sa fermeture en 1940. La Diamond Shoe fermera ses portes en 1936, 2 ans après la construction d'une belle usine en briques rouges, rue Notre-Dame. J.A. Vachon et fils, qui compte 37 employés, acquièrent l'édifice pour 5 000 $ et y lance sa production en mai 1937. Joseph, fort de son expérience sur les chaînes de montage américaines, et Paul, qui vient de suivre des cours en technologie pâtissière et en génie électrique, conçoivent et installent dans le bâtiment le premier convoyeur à gâteaux de l'entreprise. Mais Joseph Arcade n'en verra pas les fruits. Le patriarche est emporté par une embolie le 15 janvier 1938. Rosanna est désormais seule propriétaire de l'entreprise. Production de guerre. La petite entreprise réussit à traverser la crise économique et va participer à l'effort de guerre, à tout le moins en contribuant à maintenir le moral des troupes. La rumeur veut qu'au début des années 1940, un vendeur de Québec, avec l'assentiment de Paul Vachon, ait distribué gratuitement des gâteaux Vachon aux recrues alléchées qui, fraîchement débarqués du train, se pressaient autour de ces étalages. Chose certaine, les commandes de l'armée canadienne ont commencé à affluer jusqu'à constituer 30 % des revenus de l'entreprise. Les Joe Louis, dit-on, se rendent jusqu'en Grande-Bretagne. Partout en Beauce, des initiatives similaires se multiplient. En 1942, le village de Sainte-Marie, environ 1800 habitants, compte, outre Vachon, 5 ateliers de menuiserie, un fabricant de crème glacée, 3 manufacturiers de boîtes de bois, un gantier, une scierie, une fonderie, une imprimerie et un fabricant de vadrouilles. La même année, un groupe d'hommes d'affaires rachète l'usine désaffectée de la Regina Chou pour y créer la manufacture de meubles Baronet. Rosanna cède et décède. Le 18 mars 1945, Rosanna cède les rênes à ses fils Joseph, Amédée, Paul et Benoît. Elle meurt 3 ans plus tard, le 2 décembre 1948, à 71 ans. L'entreprise venait de transférer une partie de sa production dans une nouvelle usine de 1140 mètres carrés. La pâtisserie emploie alors plus de 250 travailleurs et son parc de quelque 70 camions distribue ses produits jusqu'en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Épilogue. Après une grève acrimonieuse et faute de relève familiale, les deux frères survivants, Paul et Benoît, vendront 83 % des parts du gâteau au Mouvement des Jardins en 1970. L'entreprise, fondée par Rosanna Giroux et Joseph Arcade Vachon, compte alors quelque 1200 employés et 425 véhicules. Depuis 2015, sous le parapluie du géant mexicain Grupo Bimbo, l'usine Vachon de Sainte-Marie emploie de nos jours quelque 525 personnes. Elle fabrique toujours des Joe Louis. C'était « Quand la pâte de l'entrepreneuriat Beauceron lève ». Un texte de Marc Tison, paru le 28 septembre 2025 dans La Presse.